Une heure en France, Denis Farrou, Frédéric Letournier.
Bonjour à vous tous et bienvenue dans Une heure en France. Bonjour Denis Farrou.
Bonjour Frédéric Letournier.
Avant d'aller en région Centre-Val de Loire, dans les Hauts-de-France et en Nouvelle-Aquitaine ce midi, eh bien on va parler du métier d'aide-soignant.
Ils sont au cœur du rapport de l'aide aux personnes âgées, remis ce matin à la ministre de la Santé, un rapport qui préconise notamment la suppression du concours d'entrée au métier.
Nous allons au château royal de Blois à la rencontre de Catherine de Médicis, dont on célèbre les 500 ans de la naissance. Ensuite, on découvre l'assiette Picard. Il n'a rien à manger, mais c'est un jeu traditionnel qui remonte au XVIIe siècle. Et puis on visite un club de foot des Landes qui accueille de jeunes bénévoles contre le financement d'une partie de leur permis de conduire.
Les aides-soignants, une histoire royale, un jeu d'autrefois et du bénévolat. Voilà les initiatives et infos du jour sur France Bleu.
Et on commence avec l'actu du jour et Simon de Faucompré.
Bonjour Simon.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
L'un des deux blessés hier lors de l'attaque contre la mosquée de Bayonne a de nouveau été opéré ce matin.
Oui, victime du tireur qui voulait mettre le feu au lieu de culte. Les deux septuagénaires blessés par balle sont dans un état stable, annonce aujourd'hui Abdelatif Boutati, le président de l'association des musulmans de la côte basque, toujours très ému et choqué ce matin.
Il faut qu'on se lève avec fermeté face à ces actes odieux et terrifiants. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va subir ça? Mais dans toute la France, il faut arrêter ces amalgames, il faut arrêter ce problème de voile qui est devenu un truc hystérique. On voit ça qu'en France, c'est pas possible. On demande juste de vivre notre religion tranquillement, en respectant bien sûr la loi de la République. Il faut qu'on soit ensemble. La main dans la main et avancer dans la paix.
Le suspect Claude Cinquet, un ancien candidat du Front National dans les Landes, depuis écarté du parti, a reconnu les faits en garde à vue. Dans ce contexte très tendu, les sénateurs vont examiner dans une heure et demie un projet de loi sensible mis sur la table par les Républicains.
Oui, il vise à interdire le port du voile aux parents qui accompagnent les sorties scolaires. Pour l'instant, la loi les y autorise.
Un pêcheur à pied retrouvé mort ce matin dans les Côtes d'Armor. Âgé de 63 ans, il était disparu depuis hier après avoir été surpris par la marée montante et piégé dans de la vase.
Son frère qui l'accompagnait a survécu, il a été retrouvé en état d'hypothermie.
Ouais, c'est le 9e décès lié aux grandes marées dans les Côtes d'Armor depuis le début de l'année. On l'apprend aujourd'hui, 3 collégiens de Toulouse ont été mis en examen il y a 10 jours pour viol en réunion et agression sexuelle sur des élèves de 14 ans. Les faits datent de mars dernier. Certains ont été filmés et diffusés sur Internet.
Les personnels hospitaliers demandent un peu d'oxygène alors que le budget de la Sécu s'apprête à être voté.
Oui, les députés vont s'en charger dans l'après-midi et les dépenses de santé limitées font craindre une austérité toujours plus grande dans les couloirs des hôpitaux. Déjà 7 mois que les services d'urgence sont en grève, ils réclament des effectifs et plus de moyens.
D'ailleurs, à l'appel des syndicats de santé et de plusieurs collectifs, un rassemblement est prévu dans l'après-midi à Paris devant l'Assemblée nationale.
Le sujet est très sensible. Pour calmer tout le monde, le gouvernement a promis un plan de soutien aux hôpitaux. Il doit être annoncé courant novembre. 65 mesures contre les violences conjugales. C'est le fruit des réflexions de 11 groupes de travail, 2 mois après le lancement d'un Grenelle sur la question. Retrouvez plusieurs de ces mesures sur francebleu.fr. L'une d'elles préconise une meilleure formation des policiers et des magistrats pour échanger avec les victimes. Une bonne mesure pour Céline Pic, porte-parole de l'association Osez le Féminisme, mais elle est beaucoup moins convaincue par d'autres proposition, on l'écoute.
On a dans la liste des mesures, en particulier, une proposition sur une levée du secret médical. Ça, on pense sincèrement que c'est une fausse bonne idée. Pourquoi ? Parce que le médecin doit établir un cadre de confiance. On sait en particulier que sur les 200 000 femmes victimes de violences conjugales, 24% d'entre elles ont été détectées par leur médecin, en particulier le médecin traitant est en première ligne pour détecter les violences. Il faut vraiment conserver ce cadre de confiance et surtout plutôt former les médecins à la détection systématique et à l'orientation vers des structures spécialisées dans la prise en charge des psychotraumas et par exemple pour que les médecins posent systématiquement la question lors d'un entretien médical, avez-vous subi des violences sexistes et sexuelles ? Et si oui, savoir les orienter pour une prise en charge.
La balle est maintenant dans le camp du gouvernement, il va tout examiner déterminer en détail avant d'annoncer dans un mois les mesures qui seront mises en place. Il faut revaloriser les métiers du grand âge, comme par exemple aide-soignant en EHPAD ou assistant à domicile, constate un rapport de l'ancienne ministre du Travail Myriam El Khomri remis ce matin à la ministre de la Santé Agnès Buzyn.
Oui, il s'agit de rendre les métiers du secteur plus attractifs et on sait que dans ce domaine il y a du travail. Oui. On va parler notamment dans un instant avec le syndicat national des professionnels infirmiers, des aides-soignants, de leur salaire et de leur formation.
La reconnaissance faciale à l'entrée des lycées, c'est non. Réponse de la CNIL, Commission Nationale Informatique et Liberté, à deux lycées de Nice et Marseille qui voulaient faire le test. Une prise de position jugée réactionnaire par le président de la région PACA, Renaud Muselier, qui compte insister. Une bonne nouvelle, Denis.
Allez-y.
La France sera sur la pelouse pour la finale de Coupe du Monde de rugby dimanche.
Oui, très bien.
Il n'y en aura qu'un, en fait, de Français. C'est l'arbitre Jérôme Garcès. Il va terminer sa carrière en beauté au sifflet de cette Angleterre-Afrique du Sud. Jamais un Français n'avait arbitré une finale de mondial.
On ne retiendra qu'une chose, la France est en finale de la Coupe du Monde au Japon.
Dit comme ça, ça fait plaisir. Et un mot de foot avant la dernière édition de la Coupe de la Ligue. Et oui, elle sera supprimée la saison prochaine. Deux matchs ce soir, Nîmes-Lens à 18h45 et Bordeaux-Dijon à 21h. La météo éclaircie dans les Hauts-de-France, mais aussi dans le bassin aquitain, les Pyrénées et la pointe sud-est. Le centre du pays est traversé par une bande grise et pluvieuse entre la Bretagne et les Vosges. Elle va rester bien en place toute la journée.
9 degrés à Strasbourg cet après-midi, 22 à Alès, 11 degrés à Lorient, 20 à Dax, où nous allons passer tout à l'heure. 14 à Tarare dans le Rhône, 20 à Tulle, 12 à Paris, 11 à Calais, 22 à Porto Vecchio. Ça donne un peu mal à la tête ce Tour de France des températures. Merci Simon de Faucompré.
Merci Denis Farou.
FranceBleu.fr. Toute la musique de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.
France Bleu Paris, info, trafic et mobilité en temps réel. Adrien Serrière.
Un gros ralentissement sur l'A6 à cause d'un accident à Chilly-Mazarin. Deux voitures se sont accrochées, elles occupent les voies de droite. Il reste deux voies pour circuler. Actuellement de Ris-Orangis à Vissou, donc en direction du nord, vous mettez 40 minutes. C'est aussi au minimum le temps que vous allez perdre entre Créteil et Fresnes sur la 86 intérieure, qui est toujours perturbée par les travaux sur le bas-côté à Thiers au niveau de Belle-Épine. Il faut vraiment éviter ce tronçon. Si vous roulez en direction de Lyon ou d'Évry depuis le nord de Paris, passez plutôt par la 4 à Nogent-sur-Marne, puis la francilienne à Embrunville, afin de rejoindre la 6.
Le porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers sur France Bleu, après la remise du rapport ce matin à El Khomri sur l'aide aux personnes âgées à la ministre de la Santé. Bonjour Thierry Amouroux.
Oui, bonjour.
L'idée, c'est de rendre plus attractifs les métiers. Ça passe évidemment par des salaires plus élevés. Pour mémoire, un aide-soignant débute à 1255 € net par mois, 1500 et quelques en fin de carrière. Ce n'est pas le salaire qui motive pour l'instant.
Non, tout à fait. Il y a un décalage sur les salaires par rapport aux autres pays, ce qui pose des problèmes, effectivement, pour recruter les gens.
Alors parmi les propositions très concrètes et à propos de recrutement, vous y faisiez allusion à l'instant, il y a la suppression du concours pour devenir aide-soignant. Est-ce que c'est une bonne idée ?
Ben, on se pose quand même la question parce qu'effectivement, vous avez beaucoup de gens qui vont rentrer dans les instituts de formation, mais qui ne vont pas forcément rester au fur et à mesure des stages. Donc, ça va faire beaucoup d'espoir, beaucoup de temps de gâcher pour des jeunes qui vont rentrer en formation et qui n'arriveront pas à rester dans le temps. Alors que le concours, ça permet justement aux gens de voir s'ils ont le niveau ou pas.
Mais vous pensez la même chose du concours d'infirmier qui est en train d'être supprimé ?
Oui, c'est la même chose. Il faut bien comprendre que par rapport aux études, vous avez un taux d'échec important qui est de l'ordre de 30% entre ceux qui rentrent et ceux qui sont diplômés. Et si vous ouvrez les portes, dirais-je, ça entraîne beaucoup plus de gâchis parce que vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas le niveau, qui vont rentrer et qui ne dureront pas. Puis il y a aussi le fait que c'est une partie de formation où vous êtes en stage au bout de quelques semaines auprès de personnes malades. Et donc, c'est bien qu'avant qu'il puisse y avoir une sélection.
Oui. Autre proposition, développer l'apprentissage, comme c'est le cas dans d'autres professions. Pour des aides-soignants, ça vous paraît logique ?
Oui, oui, oui. L'apprentissage, c'est très bien. C'est une forme d'accompagnement supérieur parce que vous avez un tutorat beaucoup plus important par les pairs.
Le nombre de personnes dépendantes va augmenter de 7% d'ici à 2025, c'est-à-dire demain. On sera alors aux alentours de 1,5 million de personnes. On n'a plus le choix. Il faut trouver des solutions. Il faut trouver du personnel.
Oui. Il faut du personnel, surtout que nous, en France, on est très en retard par rapport aux autres pays, en particulier de l'Europe du Nord, mais ne serait-ce que l'Allemagne, qui sert souvent de point de comparaison entre nos deux pays. Il y a deux fois plus d'agents auprès des personnes hébergées en Allemagne qu'en France. Donc ça montre que l'écart est très important.
825 millions par an préconisés dans le rapport pour embaucher des milliers de personnes. Vous y croyez ?
Bien, c'est effectivement des sommes qui sont nécessaires. Maintenant, est-ce qu'elles seront réellement mises ? On pense que c'est juste un effet d'annonce. D'abord, ce n'est qu'un rapport. Et ensuite, nous avons vu dernièrement que même les annonces de la ministre ou du Premier ministre restaient des annonces et n'étaient pas suivies d'effets sur le terrain.
Parce qu'il y a déjà eu des rapports, et notamment sur le grand âge, et puis un autre rapport au printemps. Vous estimez que ça ne va pas assez vite, mais vous n'êtes pas le seul d'ailleurs.
Oui, oui, oui. Il y a un vrai décalage. Vous soulignez la part de vieillissement de la population qui augmente, mais il faut aussi voir que ceux qui rentrent en EHPAD sont toujours plus dépendants, toujours plus âgés, et ça devient de plus en plus difficile dans le cadre du sous-effectif qu'il y a aujourd'hui pour les prendre en charge dignement. Et c'est ça qui est aussi épuisant par rapport au personnel, parce que nous, on s'est engagé dans ces métiers-là pour porteurs de certaines valeurs, pour faire le bien, et on se retrouve placé dans des conditions de maltraitance institutionnelle faute d'effectifs.
Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers qui travaille de fait avec les aides-soignants, évoqué ce midi. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée.
Merci, bon courage.
Une heure en France, Denis Farrou, Frédéric Le Ternier.
Et aujourd'hui, on va faire une plongée dans l'histoire au château royal de Blois, qui célèbre les 500 ans de la naissance de Catherine de Médicis.
Là où elle est morte il y a 430 ans, Blois, la résidence favorite de 7 rois et 10 reines de France, dont Catherine de Médicis.
Ensuite, on va s'essayer un jeu traditionnel qui date du XVIIe siècle, le jeu de l'assiette picarde.
Et qui se joue en Picardie.
Évidemment.
Et dans les Hauts-de-France, c'est une histoire de table, de tréteaux et de palais en bois.
Et puis on va terminer avec du bénévolat dans un club de foot dans les Landes pour se payer une partie du permis de conduire. C'est gagnant-gagnant en fait.
Le dispositif a un nom, c'est le parcours d'engagement citoyen, mais j'aime bien votre résumé, gagnant-gagnant.
Ah, je vous remercie, ça fait plaisir comme ça que vous me donniez des petits compliments, tout ça. Une heure en France ensemble jusqu'à 14h.
C'est parti.
Je sens des boum et des bangs, agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé. Tordu comme un boomerang, mon esprit l'a rejeté. De ma mémoire qu'à ma bringue et ton amour. Je sens des bombes et des bandes agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À s'aimer comme des dingues, comme de fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter. Si comme un boomerang tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu, je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens les boum et les bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner. Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés. Prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer. Tout
toutes ces tortures de cinglé que tu m'as fait endurer. Je sens des boumes et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. Ma raison vacille et tangue, elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, de flashbacks enchaînés. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrai. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À pleurer les larmes dingues d'accord que je t'aime.
Dany Étienne Daho qui revient très en force avec son album Eden qui est en tournée. C'était comme un boomerang sur France Bleu.
Une heure en France, Frédéric Le Ternier, Denis Farou sur France Bleu.
Au Château Royal de Blois, on célèbre le 500e anniversaire de la Renaissance et puis aussi de la naissance d'une figure de l'histoire de France, de Catherine de Médicis. À cette occasion, on peut suivre une programmation riche dédiée à cette femme hors norme.
Mais c'est la visite guidée intitulée « Les secrets de la dame en noir » qui nous a attirés.
Effectivement, et on revient sur la légende de cette femme avec la conservatrice du château. Bonjour Elisabeth Latrémolière.
Bonjour.
Il faut d'abord dire que Catherine de Médicis a eu une longévité assez incroyable. Elle a assisté à 5 règnes différents.
Oui, 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 c'est une particularité hein, parmi les reines de France. D'autant qu'elle est restée en France, parce que vous savez souvent, en fait, une reine étrangère, ben, elle repart dans son pays après la mort du souverain. Et en fait, elle est restée, effectivement. Elle va rester jusqu'à sa mort. Alors, longévité historique, longévité de la personne, puisqu'elle est morte à près de 70 ans, alors que les reines, à l'époque, la moyenne de décès des reines était de 43 ans, vous voyez.
Ah oui, quand même. Catherine de Médicis, une histoire dense et divergente, dit l'Expo. En quoi elle est divergente? À cause des guerres de religion de l'époque, par exemple?
Eh bien, Catherine de Médicis, effectivement, alors elle a eu un rôle politique important et elle a été surtout l'objet d'une véritable campagne de diffamation de son vivant. Hein. C'est-à-dire qu'on l'a on a créé la légende noire dès le 16e siècle. Hein. Bon, elle arrive dans une époque, effectivement, une fois la mort d'Henri II en 1559, vont démarrer presque tout de suite, officiellement, dans l'histoire démarrent les guerres de religion. Et à ce moment-là, elle va toujours chercher à résoudre les contraires. Elle avait un idéal de concorde et de lumière et on en a fait une reine noire. Voyez, donc ça va être quelque chose d'assez terrible pour elle jusqu'à la fameuse Saint-Barthélemy qui va être le moment le plus horrible sans doute de sa vie. Et peu de temps avant, on en avait fait vraiment une reine noire. Hein. Il y a des textes absolument épouvantables d'une misogynie terrible qui sont publiés en 1574. Donc on est juste après la mort. Au début du règne de Charles IX, elle va assurer une régence et là, évidemment, tous les opposants essayent de la discréditer. Mmh. Vraiment, c'est très violent. Hein. Ça va être effectivement quelque chose de très violent et avec quelqu'un qui avait... Bon, je pense qu'aujourd'hui, elle aurait le prix Nobel de la paix, quoi. Faut être clair, hein, c'est quelqu'un.
Voilà. Elisabeth Latrémolière, on sait que parfois, même souvent, Catherine de Médicis a agi dans l'ombre. Est-ce qu'on sait aujourd'hui quel a été son rôle politique exact?
Alors... Je ne sais pas si le terme d'ombre est bon, justement, parce que ombre, vous voyez, ça renvoie au noir. Et donc, on essaye de s'inscrire en faux. Enfin, je ne dis pas qu'on fait une campagne de réhabilitation, mais c'est un peu cela, parce qu'on s'appuie quand même sur aujourd'hui toutes les recherches des historiens qui veulent effectivement montrer qu'elle n'a pas... Alors, déjà, du temps du roi Henri II, elle a eu officiellement plusieurs fois les reines du pays, quand il était absent. Et puis, elle a eu des moments de régence, effectivement, très officiels, alors, surtout pendant l'enfance de Charles IX qui est devenu roi, il était tout jeune, et elle a un rôle politique pas, vraiment pas dans l'ombre, c'est-à-dire qu'elle est en quelque sorte, je dirais pas le ministre, mais enfin, elle joue à côté surtout de François II et surtout de Charles IX. Elle va jouer vraiment un rôle très important dans la négociation. C'est elle qui est sur les routes, c'est elle qui essaye d'aller voir les différents chefs de l'opposition. On est entre dans les guerres de religion, entre huguenots, protestants, donc et catholiques. C'est elle qui va les voir, parce qu'elle pense à la... Elle croit très fort au pouvoir de la parole. Mmh. C'est une sorte de magie, d'ailleurs, qu'on attribue à la parole. Alors, donc, elle n'est pas du tout, elle n'est pas vraiment dans l'ombre. Elle a vraiment un rôle de négociatrice, hein, très officiellement.
Et dire qu'elle a eu le temps de faire 10 enfants ?
Oui, alors là, c'est un peu avant les 10 enfants, finalement, parce qu'elle les fait avec son mari.
Hein. Donc, c'est très bien.
Voilà. Donc, avant le décès, évidemment, donc de Henri II, donc avant le début des guerres de religion. Les guerres de religion démarrent pour l'histoire le 1er mars 1562 quand les Guises vont assassiner 300 protestants qui sont réfugiés dans un temple à Vassy, ce qu'on appelle le massacre de Vassy. Donc c'est avant. Avant, effectivement, elle a 10 enfants pendant une douzaine d'années. Il y a neuf grossesses, puisqu'il y a des jumelles. Neuf grossesses entre 1544 et 1556, vous voyez.
Alors ça doit être très émouvant d'en reparler aujourd'hui à Blois. Elle y a passé combien de temps au château, Catherine de Médicis ?
Alors, sur le temps de son règne, on a raboute les différents mois, puisqu'ils sont jamais d'une façon permanente longue. Hein, c'est encore le moment où la cour est itinérante. Une dizaine d'années, on compte tout compris, environ une dizaine d'années.
Et c'est là qu'elle est morte, Catherine de Médicis.
Alors, elle est morte, effectivement. Elle est morte à Blois. Oui, elle est morte à Blois le 5 janvier 1589, au moment des seconds états généraux des guerres de religion, ceux pendant lesquels a été exécuté le duc de Guise. Et d'ailleurs, c'est elle qui fait venir à Blois les différents chefs pour qu'ils négocient avec le roi Henri III. Hein. Toujours c'est ce goût, ce besoin de la concorde.
Elle est assez incroyable, cette femme. On va mettre de côté le côté reine noire, on vous a bien entendu. N'empêche que c'était une femme austère. Elle n'est pas le drôle, hein, quand on la voit sur les tableaux, franchement.
Oui, c'est peut-être pour le tableau.
Alors déjà, on a beaucoup de tableaux du 19e siècle. Si vous avez, il y a beaucoup de peintures qui la représentent avant qu'elle soit en noir. C'est-à-dire quand elle est encore effectivement reine, donc l'épouse du roi, donc elle a des tenues qui ne sont pas celles du deuil. Et faut rappeler aussi que si ce noir, ça vous paraît sinistre, déjà le noir dans les tableaux vous montre pas le côté brillant, somptueux du noir, hein, parce que le noir, c'est la couleur du pouvoir, c'est pas seulement la couleur du deuil qu'elle prend, comme celui de sa belle-mère Louise de Savoie, mais c'est la couleur du pouvoir. Charles Quint, Henri II, même François Ier, même Henri III s'habillent en noir parce que c'est celui du pouvoir. Donc elle rappelle qu'elle va être une femme de pouvoir, c'est pas n'importe quelle femme. Et c'est un noir brillant, hein. Il faut vous imaginer que vous aviez aussi des pierreries, enfin bon, des perles, c'est quelque chose de brillant. Donc sûrement moins austère qu'on peut le
penser. Mais ça, on sent bien,
Elisabeth. Elle avait quand même une certaine autorité. Hein.
Évidemment. Ouais. Elisabeth Latrémolière, avant de se quitter, j'aimerais que vous nous disiez un petit mot quand même sur le transi exceptionnel que vous exposez à Blois.
Alors le transi, ça désigne en fait un corps qui est dans l'état du cadavre. Hein. Ça vient d'un latin qui veut dire celui qui a trépassé. Donc c'est une image cadavérique extrêmement étonnante, très puissante, vraiment saisissante, et qui était faite pour le tombeau.
Qu'elle avait commandé, Catherine.
Qu'elle avait commandé, voilà. Elle commande de son vivant, c'était la coutume, effectivement. Elle a une quarantaine d'années, elle commande le transi, parce que sur le tombeau des rois, vous aviez au premier niveau ce transi qui montrait que le corps était fini, que le corps allait se détruire, mais évidemment, l'important, c'était l'âme. Donc, on montrait un l'état de cadavre, donc elle est un corps décharné. Il se trouve que cette œuvre, qui a été réalisée en marbre par un sculpteur italien appelé à la cour de France par François Ier, n'a pas été terminée. Le sculpteur est mort avant de l'avoir terminée. Et on suppose que Catherine de Médicis a été effrayée.
Oui.
Mais c'est une supposition par le côté extrêmement véridique, réaliste, très fort. Hein. C'est une image très très forte. Donc, elle en a commandé un autre. Et celui qui a été réalisé par Germain Pilon, qui est aujourd'hui sur le tombeau à Saint-Denis, évidemment, beaucoup plus doux,
délicat.
Qui a fait plutôt penser à une Vénus morte qu'à un cadavre.
Hein. Quel beau moment d'histoire, plus agréable que les souvenirs d'histoire à l'école.
On vous écouterait toute la journée, Elisabeth Latrémolière.
Mais Catherine de Médicis, il faut vraiment, la revoir.
Hein. Faut qu'on aille à Blois.
Ah, c'était certainement à penser quand même une vraie femme de pouvoir et qui a été discréditée parce qu'elle était femme. Parce qu'on a dit qu'elle était étrangère, elle est à moitié française hein, quand même.
Bon, ouais. Donc en tout cas, vous lui avez bien rendu honneur ce midi dans Une Heure en France. On va venir à Blois, au Château Royal, découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur Catherine de Médicis. Mais merci pour ces mots aujourd'hui dans l'émission.
Je vous en prie.
Bonne journée, Elisabeth Latrémolière. Merci beaucoup, au revoir. On a révisé notre histoire de France avec Elisabeth Denis. Incroyable. On joue pour un casque audio Bluetooth. Vous allez nous dire dans quelle ville italienne est née Catherine de Médicis.
Ah, j'ai failli le dire il y a 10 secondes.
Ah bah, vous avez bien fait de vous reprendre. Est-ce que c'est Rome ou est-ce que c'est Florence? Vous nous appelez au 0810 055 056. Et puis restez avec nous, on va s'intéresser à un jeu d'assiette Picard. Rien à voir dans quelques minutes sur France Bleu. Et puis on va aussi faire du bénévolat dans un club de foot. Denis fait une chorégraphie sur ce titre. Il faut quand même que je vous le dise, vous qui nous écoutez.
Qui c'est qui chante ça déjà?
Alors c'est Maëlle, Toutes les machines ont un cœur. Cette chanson a été écrite par Zazie et composée par Calogero. Bonjour Frédéric, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes à Paris dans le 17e arrondissement, Frédéric.
Exactement, oui.
Êtes-vous en vacances, vous, cette semaine?
Non, je ne suis pas en vacances. Je suis en mode facturation.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Clients. Donc c'est un peu des vacances en fait. Oui.
C'est-à-dire mode facturation. Vous avez fait un travail, vous attendez d'être payé?
Oui. Et en attendant, je facture mes clients. Je fais un peu de paperasse. Quoi.
Ah mais c'est toujours un bon moment ça de facturer en général.
Oui. C'est l'argent qui rentre est toujours le bienvenu.
Et là entre deux factures, vous vous êtes dit et si j'appelais pour Catherine de Médicis?
Exactement.
On vous a pas demandé ce que vous facturiez. Vous faites quoi dans la vie, Frédéric?
Je suis peintre en bâtiment.
D'accord, très bien. Et effectivement, nous avions une question histoire. Dans quelle ville italienne est née Catherine de Médicis? C'est Rome ou c'est Florence?
C'est Florence, bien
mais
sûr.
Oui, c'est la bonne réponse.
Et elle est morte à Blois, mais ça, on ne vous le demandait pas.
Merci. Je ne comptais pas vous le dire.
Bon, bah, parfait. Mais vous n'aviez aucune obligation de ce type-là, hein, Frédéric. On vous envoie le casque audio Bluetooth et on vous souhaite une bonne comptabilité, alors.
Merci beaucoup. Merci pour vos émissions et votre bonne humeur.
Ah, merci à vous de nous écouter. Merci beaucoup, Frédéric.
Je vous en prie.
Bonne journée.
Merci, au revoir.
À bientôt. Au revoir.
France Bleu. France Bleu partenaire de Bruel entre les lignes sur France 3. À l'occasion des 60 ans de Patrick Bruel, retour sur la carrière du chanteur et du comédien. Dans Bruel entre les lignes, l'artiste se dévoile au cours d'un long entretien à cœur ouvert, ponctué d'archives et de coulisses de sa dernière tournée. Bruel entre les lignes, vendredi 1er novembre sur France 3 à 21h05. Plus d'infos sur francebleu.fr.
Un message d'Agathe Le Caron.
Quand on est maman et qu'on anime la maison des maternelles, forcément, on a envie de se mobiliser et de protéger les générations futures. Moi, Agathe, je recycle. J'ai commencé avec les produits de première nécessité, comme mon frigo. On ne réalise pas que notre vieux frigo contient des gaz qui ont 10 000 fois plus d'impact sur le climat que le CO2. Alors autant le dépolluer en France. Aucune excuse acceptée. Maintenant, c'est à vous d'agir. Plus d'informations sur écosystème.eco.
Écosystème, recycler, c'est protéger.
francebleu.fr.
À écouter, à réécouter, à voir et à revoir, à lire et à relire. Tout France Bleu est sur francebleu.fr.
France Bleu Paris, info, trafic et mobilité en temps réel. Adrien Serrière.
Vous roulez bien à cette heure-ci en Ile-de-France. Il y a tout de même 2-3 difficultés à vous signaler. La 6 est ralentie en direction de Paris à partir de Grigny à cause d'un accident qui s'est produit à Chilly-Mazarin. 2 voies sur 4 sont fermées à la circulation. L'autre bouchon est sur la 86 intérieure de Créteil à Fresnes. Le trajet prend toujours au moins 50 minutes. C'est particulièrement difficile d'avancer au niveau de Thiers à cause de travaux de réfection de la chaussée en cours depuis ce matin. Un petit embouteillage enfin sur la Nationale 10 au niveau de Coignières en direction du sud. Et puis le trafic de la ligne 8 du métro est perturbé à cause de personnes sur les voies.
Très bon début d'après-midi sur France Bleu. Si vous ne connaissez pas le jeu de l'assiette picarde, il faut absolument rester.
Ça met en appétit. Il y a de la charcuterie à l'intérieur ?
Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la nourriture. C'est un jeu de palais avec des palais gigantesques. On vous explique tout juste après Michel Berger. À tout de suite.
Celui-là passe toute la nuit à regarder les étoiles en pensant qu'au bout du monde, il y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Qui a volé leur mémoire, qui a piétiné leur vie comme on marche sur un miroir. Celui-là voudra des bombes, celui-là comptera les jours en alignant des bâtons comme les barreaux d'une prison. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui veut chanter pour se. On oublie peu à peu. Et qui garde au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Quand je pense à eux, ça fait mal, ça fait mal. Quand je pense à eux, ça fait mal.
Michel Berger sur France Bleu avec Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. On se souvient aussi de la version de l'âme, c'était dans les années 90.
Une heure en France, Denis Farrow, Frédéric Le Tournier sur France Bleu.
Vous le savez maintenant, si vous nous écoutez régulièrement, on est toujours très curieux de découvrir les jeux régionaux. Alors voici maintenant l'assiette picarde qui remonte au XVIIe siècle et qui, comme son nom l'indique, se joue donc en Picardie et dans les Hauts-de-France.
Une table, deux tréteaux, des assiettes, c'est-à-dire des palets en bois et une règle du jeu très précise.
Impressionnant. On découvre avec le président de la Ligue Picardio de France de l'assiette picarde. Bonjour Thierry Sellier.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous.
Alors, il faut imaginer, hein, celui qui ne connaît pas du tout. Comment vous expliquez l'assiette picarde à un Marseillais, un Strasbourgeois ou un Toulousain?
Alors effectivement, par rapport à son nom, rien à voir avec la ficelle picarde. Hein, on ne met pas, ça n'est pas à manger. C'est un jeu, effectivement, c'est un jeu de palets et de palets qui sont de grandes dimensions. Mmh. Hein, ce sont des, c'est un jeu en bois. Les palets mesurent 16 cm de diamètre. Hein, donc ce sont
des grands palets,
des grands disques de voilà, hein, mmh. des grands palets qui se jouent donc sur une longue table de bois. Ça se joue à deux ou en équipe. Avec un but de précision en se plaçant mieux que l'adversaire sur la table.
Est-ce qu'on pourrait comparer ça à des quilles ou pas du tout?
Des quilles, non, pas non. du tout.
Pas du tout, d'accord.
Merci pour la question,
mais bon,
Frédéric.
Je l'ai quand même posée, allez-y Denis.
Oui, tout à fait. Mais on est dans la famille des jeux sportifs traditionnels de région où les quilles ont aussi un rôle.
Vous êtes gentil, merci beaucoup.
Alors, on a suivi une partie virtuelle avec Frédéric sur Internet. On n'a pas tout compris du vocabulaire de l'assiette picarde. On peut faire un bedet, c'est quoi?
Alors, ce qu'on appelle faire un bedet, c'est quand on place deux assiettes l'une sur l'autre. Elles sont empilées, en fin de compte. Lorsqu'un joueur, ou même les joueurs, empilent mutuellement des assiettes, eh bien, ça crée un obstacle sur l'espace de jeu qui va dans le but de gêner l'adversaire.
Et une assiette à tulle levée?
As-tu levé, donc c'est une assiette à bedet, mais qui a généralement qui est un peu retombée, qui n'est pas bien posée à plat sur celle du dessous et qui est, disons, un peu bancale, à cheval sur le côté.
Ça n'arrête pas. Thierry Sellier, je voulais vous demander, est-ce qu'il faut du coup pas mal de place, parce qu'il faut une grande table pour jouer et...
3,20 m.
3,20 m, oui, de longueur mesure la table. C'est essentiellement un jeu d'extérieur à l'origine, disons que maintenant, ces dernières années, on a beaucoup développé des activités, des pratiques d'intérieur, aussi bien en salle grande ou petite, et on a effectivement des équipements qui nous permettent de jouer dans des salles de petite dimension toute l'année.
Et vous diriez qu'il faut avoir quelle qualité pour bien jouer à l'assiette picarde? Faut avoir de la concentration, de la patience,
de la chance.
De la chance aussi.
Bah de la chance, pas
non.
Ça. Oui, si, la chance, disons, c'est surtout la malchance de l'adversaire qui peut vous aider, plutôt, peut-être. Effectivement, parfois, on gagne, mais c'est plus l'adversaire qui a perdu, ça. On a tous des parties où on passe à travers, hein.
Remarquez, c'est comme au foot, hein.
Ah, tout à fait, oui, là, on retrouve des qualités, des valeurs qui sont propres à toutes les activités physiques, effectivement.
Thierry Sellier, on a lu que l'assiette picarde était considérée comme le billard du peuple, parce qu'accessible à tout le monde. Une planche, deux tréteaux et des palets, c'est pas compliqué.
C'est vrai que c'est une activité qui est très populaire. Donc vous disiez tout à l'heure que on avait des traces à partir, des traces écrites à partir du 18e siècle.
Oui.
Bon, on suppose que bien avant le jeu pouvait exister et qu'effectivement c'est le mobilier que l'on trouvait dans les maisons de l'époque, hein, où les tables étaient des planches sur des tréteaux et que cela permettait de jouer avec ce dont on disposait.
Est-ce que c'est un jeu qui se transmet beaucoup de génération en génération ? On espère qu'il va perdurer, vous nous en parlez aujourd'hui. Est-ce que les jeunes connaissent les règles, par exemple ?
Ouais, c'est un jeu qui se transmet de nouveau. Ah. C'est un jeu qui avait pratiquement disparu il y a une trentaine d'années, et qui a été relancé par un groupe de gens de tous âges, mais qui ont refusé que le jeu disparaisse. Et c'est vrai qu'il est en plein essor à nouveau dans la région et que la transmission se fait de nouveau, aussi bien dans les familles que dans les clubs, des anciens vers les jeunes. Et même maintenant, je dirais que la première génération de jeunes qui a été formée il y a une vingtaine d'années est en train, elle aussi, maintenant de former et d'initier les plus jeunes.
Mais c'est une bonne nouvelle.
Et dire qu'on n'a pas parlé du baudarin ou du fouet, du boss, avoir le bout. Et sachez quand même, Frédéric, qu'on ne joue pas une assiette, on livre une assiette.
Voilà. C'est joli.
On livre une assiette, effectivement. Et si vous voulez vous familiariser le mieux avec le jeu, c'est soit d'aller sur Internet, évidemment, mais rien ne vaut de pratiquer l'activité. Et si vous venez en vacances dans la région, surtout consultez notre calendrier ou là où vous êtes hébergé, n'hésitez pas à demander à votre hébergement qu'il vous sorte la table d'assiette qui est généralement
pas très loin.
Il y en
a beaucoup.
Le jeu de l'assiette picarde avec Thierry Sellier, président de la Ligue Picardie Hauts-de-France.
Merci beaucoup de nous avoir expliqué les règles, on en avait bien besoin. Merci Thierry Sellier.
Je vous en prie et venez nous voir samedi prochain à Fréville-Escarbotin, gymnase du lycée du Vimeux.
On va pas tout citer Thierry, mais effectivement on a pris le rendez-vous si jamais. Merci beaucoup. On va jouer nous pour une montre sport France Bleu. Dites-nous à quel siècle remonte l'apparition du jeu de l'assiette picarde. On l'a quand même dit deux fois, je vous fais pas de proposition. À quel siècle remonte l'apparition du jeu de l'assiette picarde? Vous nous appelez maintenant et puis on passe un petit moment ensemble. 0810 055 056, on vous attend sur France Bleu. tout les Irlandais. Dire qu'on parlait raclette avec un Français breton qui est en Irlande, qui vend du fromage à raclette hier.
De Franche-Comté.
Oui, c'est incroyable. C'était New Year's Day sur France Bleu pour accueillir Isabelle, qui elle est en Dordogne. Bonjour, bienvenue Isabelle.
Bonjour Frédéric, bonjour Denis et bonjour à toute l'équipe et à tous les auditeurs.
Eh bien bonjour à vous.
Et auditrices.
Et le message est passé, tout le monde fait coucou derrière la vitre en régie et vous salue ouais. Isabelle. Où êtes-vous en Dordogne?
À Champs-Sulinel, je suis à 5 km de Périgueux.
D'accord, très bien, on vous voit. Et est-ce que vous connaissiez l'assiette picarde?
Absolument pas. j'aime ma Dordogne natale et le reste.
D'accord.
Vous sortez pas du département, vous.
Bon, en tout cas, ça a l'air drôle, mais ça n'a rien à voir avec les quilles. Hein. Ça, c'est
non,
noté.
Ça a l'air sympa à faire, ça.
Ça a l'air très sympa. Dites-nous, à quel siècle remonte l'apparition de ce jeu de l'assiette picarde, Isabelle?
Je dirais 17e.
Mais oui, c'est la bonne réponse. Hein.
Ouais,
c'est ce qu'on a vu ensemble.
Que j'écoute bien ce que vous dites.
Oui, 17, 18e, c'est à peu près cette époque.
Ne changez rien, Isabelle, continuez. On vous souhaite une belle après-midi. Est-ce qu'il fait beau en Dordogne?
Ouais, ce matin, il y avait un peu de brouillard. Mais non, ça se lève et c'est bon. C'est un petit peu humide hein, partout. Mais...
Bon, bah, c'est fin octobre. Hein. On ne va pas se plaindre non plus, Isabelle. En plus, vous avez quand même une voix assez optimiste. Donc, je vous fais confiance pour passer une bonne après-midi.
Et en tout cas, je vous remercie à vous, toute l'équipe, les standards et tout. Et merci pour toutes vos émissions parce que c'est super sympa.
Oh, vous êtes gentil, ça nous fait vraiment plaisir. Hein.
Ne faites pas pleurer Frédéric.
Mais je ne fais pas pleurer Frédéric, ça fait rigoler justement.
Mais c'est vrai, moi je rigole tout le temps, vous savez Isabelle.
Ouais,
hein. Vaut mieux faire comme ça.
vous êtes un peu ma sœur jumelle, non?
Ah ben exactement, on pourrait dire ça Isabelle. Je vous fais une grosse bise donc et on vous dit à bientôt, on vous envoie le cadeau hein, évidemment Isabelle, la montre sport.
Merci beaucoup. Merci,
à bientôt, au revoir Isabelle. Les gens maintenant avec Christophe Maé, c'est son dernier titre et on en profite maintenant sur France Bleu à 13h47.
Y a des gens du voyage, y a des gens qui voyagent, des gens qui restent et des gens de passage. Y a des gens qui planent et ceux qui touchent le fond, des gens qui dorment et des gens dorment son. Y a des gens divers et y a des divergents, des gens qui espèrent et des gens d'Abidjan. Y a des gens du nord, des gens du sud, des vies douces et des vies rudes. Et y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et y'a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Y'a des gens de la haute et y'a des gens d'en bas. Y'a des gentils, des gendarmes, des junkies et des scars. Des gens qui pleurent, des gens qui rient, des Teddy Riner et des Carla Bruni. Y'a des gens Valjean qui mangent leur peine. Oui, des vrais gens qui font de la peine. Des gens qui s'aiment et qui s'assemblent. Des gens différents qui nous ressemblent. Et y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et y a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Y'a des gens de la nuit, y'a des gens du matin, des gens qui s'ennuient, des agents de mannequins. Y'a des gens qui saoulent et des gens soulageants, des gens qui rêvent la vie des autres gens. Et y'a des gens changeants et y'a des gens stables, des affligeants et des remarquables. Des gens de l'est, des gens à l'ouest, des gens qui vont, d'autres qui restent. Et y'a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et y'a des gens heureux et d'autres qui brassent de l'or. Et y'a des indignés, des indigents, des déjantés, des commerçants. Y'a des gens simples, des gens seuls, des gens chanceux et des gens humbles. Y'a des amants, des dirigeants, des gens qui en bavent et des braves gens. Y'a des gens gays, des sergents. Et dans tout ça, et dans tout ça, et dans tout ça, nous deux. Dans tout ça, nous deux. Dans tout ça, nous deux. Et dans tout ça, nous deux.
Christophe. Christophe Maé, qu'on est très heureux de retrouver. C'est son dernier titre et ça s'appelle Les gens, c'est sur France Bleu.
Une heure en France. Frédéric Le Tournier, Denis Farrou sur France Bleu.
Des heures de bénévolat pour payer une partie de son permis de conduire. Le dispositif baptisé Parcours d'engagement citoyen est maintenant bien rodé et on va tester.
Quand on habite en zone rurale, le permis de conduire est indispensable pour se déplacer et chercher du travail. Mais le permis, ça coûte cher.
Et nous sommes dans un village des Landes, à Lorraine, entre Dax et Mont-de-Marsan, où des jeunes font du bénévolat au club de foot. C'est le président de Chalosse Football Club Lorette qui est avec nous. Bonjour Laurent Ondelat.
Bonjour Alain.
Bonjour, comment les jeunes volontaires sont recrutés et par qui ?
Alors, comment ils sont recrutés ? On ne les recrute pas, ils se proposent. Mmh. On a fait de la publicité depuis 3 saisons, près de nos licenciés, en leur proposant ce dispositif qui est mis en place par le Conseil départemental des Landes, c'est à leur initiative. Et donc, quand les jeunes sont en âge de passer le permis, ils se tournent vers nous et puis on répond favorablement à leur demande en leur faisant faire des heures de bénévolat au sein du club.
Mais ça consiste en quoi ces heures de bénévolat, Laurent Ondelat ?
Alors, ils ont 40 heures de bénévolat à effectuer. Il faut que la mission dure plus de 2 mois et s'effectue dans un courant de 24 mois. Mmh. Alors nous, on leur propose de faire de l'aide aux entraînements. Ils aident les éducateurs pour l'entraînement des jeunes des petites catégories. Pendant les vacances, on met en place des stages également à l'attention des jeunes de l'école de football. Donc ils sont là pour aider à l'encadrement. Mmh. Qu'est-ce qu'on leur propose encore ?
Ils rangent les ballons.
Les stages. Pardon ?
Ils rangent les ballons peut-être, non ?
Ah non, c'est pas forcément ça, c'est plutôt justement leur montrer ce que c'est la vie associative, donc être partie prenante d'un entraînement,
d'accord,
être partie prenante de l'organisation des stages, donc avec évidemment un éducateur diplômé à ses côtés, intervenir de manière vraiment efficace pendant les encadrements et pas uniquement des basses besognes en effet.
D'accord. Oh mais il faut bien quelqu'un les fasse.
Il faut quand même savoir.
Oui mais bon, pas forcément.
C'est pas ce que je voulais dire.
Ouais. Voilà.
Il faut savoir taper dans un ballon quand même si on encadre même des tout jeunes. Hein.
Alors nous, on a décidé de n'offrir cette opportunité qu'aux licenciés de notre club. Donc d'accord. À partir du moment où on est licencié, on a la possibilité de participer et puis d'avoir cette aide du conseil départemental. Donc c'est souvent des jeunes qui sont au sein de notre école de foot depuis leur plus jeune âge et qui en effet ont une culture foot qui est intéressante.
Je disais tout à l'heure, c'est gagnant-gagnant finalement parce que ça leur fait plaisir d'accorder du temps au club de foot et en même temps ça leur paye une partie de leur permis.
Voilà, on est tout à fait d'accord, c'est exactement ça, tout le monde y trouve son compte. Les parents, puisqu'ils peuvent prétendre à une aide qui va jusqu'à 450 euros, ce qui n'est pas neutre quand on connaît le prix du permis maintenant. Et puis les jeunes, parce que en effet, ils y prennent du plaisir, hein, on voit des sourires sur leur visage, d'encadrer les petits, c'est quelque chose qui leur plaît. Et puis le club aussi est gagnant, parce que nous, c'est vrai quand on a le bénévolat, ce mot-là, avec la révolution de la société, des fois c'est un petit peu compliqué, et puis avoir des jeunes sur qui on peut compter pour étoffer l'effectif de l'équipe dirigeante en certaines occasions, ce n'est pas neutre.
Et sinon, les jaunes et noirs vont bien, Monsieur le Président ?
Les jaunes et noirs vont bien, oui. Les jaunes et noirs vont bien. C'est un début de saison satisfaisant avec, on est une petite association en pleine expansion puisqu'on comptait en fin de saison dernière plus de 270 licenciés. Et, oui, tout se passe bien, il n'y a pas de souci.
Et bravo, bravo pour votre victoire à Sabre 4-1 dimanche avant-hier.
Vous êtes drôlement bien informé. Ouais.
Il est fort, il est journaliste.
Des heures de bénévolat.
Tout à fait. Nous avons gagné à Sabre en Coupe des Landes ce week-end. Donc, nous poursuivons notre parcours dans la Coupe départementale.
Ouais. Et vous êtes 4e en championnat. Des heures de bénévolat pour payer une partie de son permis de conduire. L'exemple de Lorraine avec son club de foot dans les Landes.
Laurent Ondelat, merci de nous en avoir parlé, mais surtout bravo pour l'initiative, vraiment.
Merci à vous.
Bonne journée, à bientôt.
Bonne journée à vous aussi, au revoir.
Au revoir. Robin Thicke maintenant sur France Bleu avec Blue Red Lines.
Maybe I'm going down. Maybe I'm going black. Maybe I'm out of my mind.
Sur France Bleu, c'est Robin Thicke. Pour bien le prononcer, il faut mettre la langue entre les dents. Le Robin Thicke.
C'est comme Bluetooth.
Bluetooth, voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, Denis? On a commencé par réviser notre histoire de France à Blois.
Oui, on a percé quelques mystères de la Dame en Noir. Pas si noir que ça à entendre la conservatrice du Château Royal de Blois.
Avec une programmation exceptionnelle autour de Catherine de Médicis pour les 500 ans de sa naissance. Et puis ensuite, on s'est essayé au jeu de l'assiette picarde. Ouais. Vous avez mieux compris parce que moi,
on a fait un baudet, une assiette à tchoul levé, l'assiette picarde. On a livré une assiette.
Ah, on a livré une assiette, c'est vrai. Et puis on a terminé avec, Denis,
avec les bénévoles de l'école de foot dans les Landes qui, contre 40 heures de bénévolat, se voient accorder 450 euros pour passer leur permis de conduire. Et les bénévoles ne ramassent pas les ballons, ils encadrent les jeunes, Frédéric.
J'ai bien compris. En tout cas, vous êtes très au fait des scores des différents clubs de foot de France. Bravo à vous, Denis.
Merci pour votre bonne humeur, Frédéric vous a dit, Frédéric l'auditeur.
Ah oui, c'est vrai. On revient demain, Denis, à partir de 13h?
Demain, on prépare le nouvel an celte.
Ah oui, à la veille d'Halloween, on ne fête pas tout à fait Halloween, mais le nouvel an celte, on verra en quoi c'est différent.
Et ce sera avant la Toussaint.
Bravo, à demain.